Bonsoir à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 3 décembre 2024. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Le président américain Joe Biden a rencontré son homologue angolais, João Lourenço, mardi, au début d'une visite de 2 jours dans ce pays d'Afrique australe. Élection en Namibie, la candidate du parti au pouvoir en tête du décompte face au candidat de l'opposition qui conteste. L'Afrique du Sud, qui a pris la présidence du G20 le 1er décembre, mettra en valeur le continent négligé selon Cyril Ramaphosa. L'Ukraine met la pression pour être invitée à rejoindre l'OTAN. Et dans notre partie magazine, le groupe paramilitaire russe Wagner reste actif même après la mort de son chef Evgeny Prigogine.
Mais une fois que l'on arrive dans ces régions de l'Afrique subsaharienne, il n'y a plus vraiment de présence de l'État russe, à l'exception des structures de Yevgeny Prigozhin. Prigozhin et Wagner étaient donc en train de créer les intérêts nationaux de la Russie en Afrique dans ces régions.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En visite d'État en Angola, le président américain Joe Biden a promis un engagement durable des États-Unis avec l'Afrique aux propres conditions des Africains. C'était lors de sa rencontre aujourd'hui à Luanda avec son homologue angolais, João Lourenço, dans le cadre de sa seule visite en Afrique subsaharienne durant sa présidence. Jacques Aristide.
Tenant sa promesse de se rendre sur le continent africain au cours de son mandat qui se termine en janvier, le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis étaient à fond avec l'Afrique, une expression qu'il avait utilisée lors du sommet États-Unis-Afrique à Washington en décembre 2022. « Vous devez comprendre dans quelle mesure nous sommes prêts à nous engager », a dit Joe Biden lors d'une brève allocution au palais présidentiel angolais avant une réunion privée avec son homologue João Lourenço. Nous ne pensons pas avoir toutes les réponses, mais nous sommes prêts à entendre vos réponses à vos besoins, en particulier les réponses au financement de la dette internationale, a ajouté le président Biden. João Lourenço a affirmé que l'Angola souhaitait travailler avec les États-Unis pour attirer les investissements étrangers et améliorer les liens de défense et de sécurité, notamment par le biais d'exercices militaires conjoints et une coopération dans le golfe de Guinée et l'Atlantique Sud. Le chef de l'État angolais a également salué les investissements des entreprises américaines dans le secteur pétrolier et gazier angolais et dans divers projets à venir tels que des silos à grains et des infrastructures logistiques. Nous allons dépasser les relations de la guerre froide où nous n'avons pas toujours été alignés et marquer un tournant dans les relations entre les deux pays, a poursuivi João Lourenço, faisant allusion au soutien américain à l'une des factions armées de la longue guerre civile en Angola, en partie un conflit par procuration entre les États-Unis et l'Union soviétique.
Un sommet sur le processus de paix dans l'est de la République démocratique du Congo se tiendra le 15 décembre à Luanda avec la présence des présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi, initié par le président angolais João Lourenço. Médiateur désigné par l'Union africaine, ce sommet vise à poursuivre le fragile cessez-le-feu signé en août entre la RDC et le Rwanda. Bien que des violations aient eu lieu, les deux pays maintiennent le dialogue sous l'égide de l'Angola. Au moins 8 civils et 1 militaire congolais ont été tués par des rebelles ADF dans le nord-est de la République démocratique du Congo, une région où ce groupe armé affilié à l'État islamique commet régulièrement des exactions, a-t-on appris lundi de sources locales. 3 soldats béninois ont été tués lundi et 4 autres blessés dans une attaque dans le nord-est du Bénin, de plus en plus confrontés à des attaques attribuées aux djihadistes, a-t-on appris mardi de sources militaires. Des militaires étaient affectés à la surveillance de l'oléoduc géant qui relie les champs pétroliers d'Agadem et dans le sud-est du Niger à la façade maritime béninoise, selon la même source. Les autorités béninoises n'ont pas encore communiqué sur cette attaque. En Namibie, le décompte des 2/3 des voix des élections présidentielles et législatives donne la candidate du parti au pouvoir, Netumbo Nandi-Ndaitwah, largement en tête face au candidat de l'opposition. Ce dernier a annoncé qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
La vice-présidente Netumbo Nandi Ndaitiwa, candidate du parti de la SWAPO qui dirige la Namibie depuis son indépendance il y a 34 ans, a obtenu un peu plus de 54% des voix, selon un décompte ce mardi matin de près de 66% des votes par la commission électorale. Le leader du principal parti d'opposition, les Patriotes indépendants pour le changement, Panduleni Itula, arrive loin derrière avec 28% des voix. Il a prévenu qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats de ces élections, dont il a dénoncé de multiples irrégularités. L'opposant a indiqué qu'il entendait faire annuler ce scrutin selon les procédures prévues, quel que soit le résultat. Les élections présidentielles et législatives du 27 novembre ont dû être prolongées à deux reprises en raison de problèmes logistiques et techniques, dont une pénurie de bulletins de vote. Nandi Ndaitiwa pourrait être contrainte à un second tour si elle ne réunit pas plus de 50% des voix lors de la proclamation des résultats définitifs. Si elle l'emporte, elle deviendra la première femme présidente de la Namibie.
Human Rights Watch accuse les autorités éthiopiennes d'avoir supprimé l'espace civique dans le pays après la suspension de 3 ONG de défense des droits humains. Ces ONG ont reçu des lettres depuis le 14 novembre 2024, les obligeant à cesser leurs activités car accusées d'être politiquement biaisées et de nuire à l'intérêt national.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Afrique du Sud profitera de sa présidence du G20, la première d'un pays africain, pour inscrire les priorités du continent négligé à l'ordre du jour du puissant Forum économique mondial, a déclaré ce mardi le président Cyril Ramaphosa. Les précisions de Jean-Roger Billon.
L'Afrique du Sud a pris la présidence tournante du groupe des plus grandes économies du monde le 1er décembre et accueillera son sommet en novembre avant de passer le relais aux États-Unis. Il s'agit d'un grand moment pour inscrire plus fermement les priorités de développement du continent africain et plus largement des pays du Sud à l'ordre du jour du G20, a déclaré Cyril Ramaphosa lors d'un point de presse. Le chef de l'État sud-africain souhaite que cette présidence et une saveur africaine sur le fond, sur les questions qui seront abordées. Jusqu'à l'admission de l'Union africaine en 2023, l'Afrique du Sud a été la seule voix africaine pendant très longtemps à rappeler le président. Il a insisté pour que d'autres pays africains, notamment le Nigeria, l'autre grande puissance économique du continent, soient inclus pour que, dit-il, nous puissions faire entendre la voix de l'Afrique, le continent négligé. Les priorités de l'Afrique du Sud pour sa présidence sont le renforcement de la résilience aux catastrophes face au changement climatique, la mobilisation de financement pour le passage à des énergies plus vertes et la lutte contre les niveaux insoutenables de la dette qui entravent les pays à faible revenu, dont beaucoup sont africains.
Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN sont en réunion à Bruxelles aujourd'hui. L'Ukraine a de nouveau demandé à faire partie de l'Alliance à moins de 2 mois du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Claire Morin-Gibault.
La seule véritable garantie de sécurité pour l'Ukraine est la pleine adhésion à l'OTAN, a rappelé ce mardi la diplomatie ukrainienne. Cette adhésion constituerait une menace inacceptable pour la Russie, a rétorqué le Kremlin. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'est montré prudent et a réitéré la position de principe de l'Alliance. Le processus devant conduire à l'adhésion de l'Ukraine est irréversible, mais aucune date n'a été précisée. Le chef de la diplomatie ukrainienne a de nouveau réclamé des armes ce mardi à Bruxelles, notamment 20 nouveaux systèmes de défense antiaérienne pour contrer les frappes de missiles russes. Hier, Washington a annoncé une aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine évaluée à 725 millions de dollars et comprenant notamment des missiles et des mines antipersonnelles.
Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a proclamé mardi la loi martiale dans un contexte de débat parlementaire houleux sur le budget. Une décision jugée illégale par le chef de l'opposition qui a appelé la population à manifester. Toutes les activités politiques ont été interdites et les médias sont placés sous la surveillance du gouvernement, a déclaré le chef de l'armée Park Han-soo dans un communiqué. La loi martiale avait été levée en janvier 1981. Les appels à la désescalade se sont intensifiés lundi après l'offensive rapide des rebelles qui ont pris de vastes régions du nord de la Syrie, suscitant des craintes d'une reprise des combats après plus de 10 ans de guerre civile. Le président Bachar al-Assad dénonce une tentative de redessiner la carte du Moyen-Orient. Les combats les plus graves depuis 2020, accompagnés de frappes aériennes syriennes et russes, ont déjà causé plus de 500 morts. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Jean-Roger Billon.
Le FMI a approuvé un prêt de 360 millions de dollars pour le Ghana. Le Ghana, l'un des principaux producteurs de pétrole, d'or et de cacao, a subi une grave crise financière en 2022 qui a contraint le gouvernement à faire défaut sur sa dette extérieure et à négocier avec le FMI un plan de secours de 3 milliards de dollars sur 3 ans. Le FMI a déclaré qu'il s'attend à ce que l'inflation passe d'un taux annuel de 18% à la fin de cette année à 8% d'ici la fin de 2025. Les prix des carburants à la pompe au Cameroun devraient augmenter à nouveau l'année prochaine, le gouvernement prévoyant de nouvelles réductions des subventions conformément aux recommandations du Fonds monétaire international. La dernière mesure en date réduirait la subvention de plus de 90%, passant de 263 milliards de francs CFA à 15 milliards de francs CFA, selon un projet de loi de finances pour 2025 présenté dimanche. Pour sa deuxième édition, le classement des meilleures universités d'Afrique subsaharienne du mensuel britannique Times Higher Education montre encore une domination de l'enseignement supérieur anglophone dans la région. Au classement général, l'Université de Johannesburg en Afrique du Sud est le numéro 1 africain grâce à des performances particulièrement élevées dans l'accès à l'équité ainsi que les ressources et les finances.
Place maintenant sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Du handball pour commencer avec la dernière journée de la CAN féminine qui se dispute à Kinshasa en RDC.
Oui, des rencontres alléchantes qui vont désigner les derniers qualifiés pour les quarts de finale. Ça ne passe pas pour la Guinée et l'Ouganda qui étaient aux prises dans la poule B. Malgré la victoire des Guinéennes face aux Ougandaises 48-22, les Guinéennes restent 5e et l'Ouganda 6e du groupe B. Seules les 4 premières équipes se qualifient pour les quarts de finale. Toujours dans cette poule, la Tunisie, battue in extremis par le Cameroun 21-20, arrache tout de même la dernière place qualificative de cette poule B, où les Camerounaises, les Angolaises et les Hautes Congolaises s'étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale avant cette dernière journée des matchs de groupe.
Le Sénégal domine dans le groupe A.
Justement, dans cette poule A, les Lions de la Teranga se sont qualifiés pour les quarts de finale avant leur dernier match aujourd'hui, perdu 25-17 face au Congo, tout comme les Égyptiennes vainqueurs des Capverdiennes 27-24 et les Congolaises. Pour notre consultant Amdine Sy, les Lions doivent mieux faire et aller chercher ce titre qu'attendent depuis longtemps les Sénégalais.
Les Sénégalais sont sûrs et certains de jouer quand même les quarts de finale. Mais là n'est pas le problème, puisque le problème pour les Lions du Sénégal, c'est de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de l'histoire, comme l'ont fait les Lions du football en 2022 au Cameroun, puisque le Sénégal court derrière ce trophée depuis très longtemps. Mais à chaque fois, il y a une équipe qu'on appelle l'Angola qui se dresse devant cette belle équipe du Sénégal. Est-ce que cette équipe sera résolue cette année? Wait and see. En tout cas, les Lions sont bien partis.
Amdine Sy, consultant sportif.
Ici en NBA, les Celtics dominent le Heat et Atlanta continue sur sa lancée.
À domicile, les Boston Celtics ont pu compter sur leur MVP des finales NBA cette année, Jaylen Brown, pour battre Miami 108-89. L'arrière de 28 ans a réussi 29 points, 7 rebonds et 4 passes décisives en 31 minutes passées sur le parquet. Le Heat était privé de plusieurs cadres, dont Jimmy Butler. Les Celtics restent deuxième de la conférence Est derrière les Cleveland Cavaliers. À Minneapolis, Minnesota n'a pas eu de mal à s'imposer 109-80 face aux Los Angeles Lakers. LeBron James a terminé avec seulement 10 points. Au classement de la conférence Ouest, Minnesota 11e se rapproche de la franchise californienne 8e. À Atlanta, les Hawks se sont imposés sans trembler devant les Pelicans de la Nouvelle-Orléans 124-112. Cette 4e victoire consécutive des Hawks leur permet d'améliorer leur score, 11 victoires et 11 défaites cette saison, et de figurer en 6e position à l'Est.
Merci à Kuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président américain Joe Biden a promis un engagement durable des États-Unis avec l'Afrique lors d'une rencontre avec son homologue angolais, João Lourenço, ce mardi, dans le cadre de sa seule visite en Afrique subsaharienne en tant que président des États-Unis. Selon la Maison-Blanche, M. Biden va aussi y rencontrer les dirigeants de la RDC, de la Zambie et de la Tanzanie. Pour en savoir davantage, Eric Manilakiza, adjoint à Johannesburg, Johan William Schmontzis, porte-parole de la langue française du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique.
Le président s'est rendu en Angola, premièrement pour souligner la solidité durable des relations bilatérales entre les États-Unis et l'Angola. Et en plus, sa visite souligne l'engagement des États-Unis envers tous nos partenaires africains. En particulier la manière pour travailler ensemble pour résoudre les défis communs. Le site est important parce que les États-Unis ont annoncé l'année dernière leur soutien au corridor de Lobito, un projet d'infrastructure qui promet de lier l'économie de l'Angola, de la RDC, de la Zambie et plusieurs autres pays africains, en particulier de l'Afrique australe, et mobiliser, multiplier les exportations et la croissance économique dans ces pays. Et c'est pour ça que la Maison-Blanche a choisi l'Angola pour la visite du président.
Qu'est-ce que les États-Unis espèrent tirer de ce partenariat?
Cette visite a lieu dans l'esprit qu'a annoncé l'administration sous l'expression « ce qui compte ». Ce n'est pas ce que nous pouvons faire pour l'Afrique, c'est ce que nous pouvons faire avec l'Afrique. Les États-Unis entreprennent ce projet pour augmenter le commerce bilatéral entre les États-Unis et l'Afrique pour le bénéfice des deux côtés.
Et pourquoi le président Biden a choisi de se rendre au Musée national de l'esclavage que symbolise sa présence?
L'héritage de l'esclavage et toute cette histoire épouvantable nous est très important. On est conscient du fait que pour la diaspora africaine en Amérique et aussi pour les peuples africains, c'est une mémoire qui fait mal et il faut s'adresser à ce qui s'est passé dans le passé faire face à l'histoire. C'est un genre de transparence. C'est un héritage et une question qui nous sont importants. Et voilà, c'est un élément de l'histoire qui ne peut pas être effacé.
Johan William Schmontzis, porte-parole de langue française du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique. Le groupe paramilitaire russe Wagner reste actif, même après la mort de son chef Yevgeny Prigojine en août 2023. Les experts russes affirment que le groupe s'est rapproché des structures de pouvoir du Kremlin et qui continue à se battre pour faire avancer les intérêts de Moscou dans le monde. Les détails avec Matthew Kufa, récit Ginny Niwa.
Jusqu'à sa mort en août 2023, Yevgeny Prigojine était le chef et le visage du groupe mercenaire Wagner. En 2014, le groupe a commencé à envoyer des milliers de mercenaires combattre pour les intérêts de la Russie en Ukraine et au Moyen-Orient.
John Lechner, journaliste et chercheur.
Nous avons constaté une coopération étroite avec le ministère de la Défense et d'autres institutions russes dans des endroits comme l'Ukraine en 2014 et en Syrie.
Le groupe a également commencé à opérer en Afrique. À la fin de l'année 2019, Wagner avait des bureaux dans 20 pays africains. Des allégations ont commencé à faire surface, selon lesquelles Wagner était l'auteur de crimes de guerre et du meurtre de civils africains. De nouveau, le chercheur John Lechner.
Mais une fois que l'on arrive dans ces régions de l'Afrique subsaharienne, il n'y a plus vraiment de présence de l'État russe, à l'exception des structures de Yevgeny Prigozhin. Prigozhin et Wagner étaient donc en train de créer les intérêts nationaux de la Russie en Afrique dans ces régions.
Mais en juin 2023, les relations de Prigozhin avec le Kremlin ont pris fin après qu'il eut mené un bref soulèvement contre les autorités russes. Deux mois plus tard, il meurt dans un accident d'avion. Certains analystes pensent qu'il a été tué intentionnellement. Depuis, le Kremlin a intégré le groupe Wagner dans l'armée russe. Écoutons le journaliste russe Ilya Barabanov.
Au cours de l'année et demie écoulée, nous avons vu l'empire Prigozhin se diviser en diverses structures. Quelqu'un va au ministère de la Défense, quelqu'un va à la garde nationale russe, quelqu'un va dans les forces spéciales tchétchènes, Akhmat, quelqu'un va ailleurs.
L'analyste ukrainienne Maria Koucherenko affirme que ces changements mettent en évidence le rôle des services de renseignement militaire russes, communément appelés GRU au sein de Wagner.
Depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui, il était sous le commandement du GRU et en fait rien n'a changé en ce qui concerne la structure principale responsable de l'existence et de l'activité de ce groupe.
Wagner ne combat plus officiellement en Ukraine, mais d'anciens mercenaires le font. Ce conflit, prédit Ilya Barabanov, pourrait déterminer le rôle futur des mercenaires russes à l'étranger.
Le gouvernement russe disposera d'une énorme ressource humaine de vétérans qui ont combattu dans cette guerre et ils pourront probablement être utilisés dans d'autres conflits lointains.
Los Angeles a approuvé une ordonnance qui la qualifie de ville sanctuaire. Il s'agit d'une réponse à la promesse du président élu Donald Trump de procéder à des expulsions massives lorsqu'il prendra ses fonctions en janvier. L'ordonnance n'empêchera pas les fonctionnaires fédéraux d'expulser les immigrés sans papier, mais elle renforce le vœu de la ville de protéger sa population immigrée. C'est un reportage d'Angelina Bagdasarian, récit Yacouba Ouedraogo.
Claudia Ventura vit à Los Angeles depuis 20 ans. Elle a un emploi et une famille, mais n'a pas de papier en règle. Claudia Ventura fait partie des quelques 800 000 habitants de Los Angeles qui n'ont pas de statut légal aux États-Unis. Et comme beaucoup d'autres, elle se sent mal à l'aise après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle.
Maintenant, je ne vois plus beaucoup de gens dans la rue. Moins de gens, c'est mauvais. Je pense que les gens ont peur des expulsions.
Le 19 novembre, le conseil municipal de Los Angeles a approuvé une ordonnance qui la qualifie de ville sanctuaire. Cela implique que la police locale et les autorités de l'État ne partageront pas les informations sur le statut d'immigration des personnes avec les autorités fédérales chargées de l'immigration, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime grave. Des militants des droits de l'homme comme José Mario Cambrera de la Coalition for Human Immigrant Rights of Los Angeles soutiennent l'ordonnance.
Une telle ordonnance municipale envoie un message très fort à la communauté de Los Angeles et au reste du pays. À LA, les ressources disponibles seront utilisées pour assurer la sécurité de la communauté, pour que la communauté fasse confiance à ses propres dirigeants et pour que la communauté prospère, et non pour les arrêter ou pour semer le chaos dans leur communauté.
Pourtant, tout le monde dans la ville n'est pas d'accord avec cette décision. Les partisans de Trump, environ 38% des habitants, selon les résultats de l'élection, ne veulent pas que LA soit une ville sanctuaire.
Je pense que c'est une honte. Nous devons d'abord nous occuper des nôtres. Quand nous disons l'Amérique d'abord, cela ne veut pas dire que nous ne nous occupons pas des autres. Cela veut dire que nous nous occupons d'abord des nôtres.
Les parents de Linda Anna sont originaires du Mexique. Ils sont entrés légalement aux États-Unis et elle estime que toute personne l'ayant fait illégalement devrait être expulsée. L'ordonnance n'aura que peu d'effet pratique car depuis 1979, elle est interdite à la police et aux fonctionnaires de l'immigration d'interroger une personne sur son statut d'immigré. Le nouveau statut de LA ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir d'expulsion, mais simplement que les autorités locales n'aideront pas les agents fédéraux à trouver et à expulser les immigrés sans papier. Tatiana Edward Behar, avocate spécialisée en droit de l'immigration.
Je pense que les agents fédéraux commenceront par des raids massifs plutôt que de demander des documents à des passants au hasard dans la rue. Je pense qu'il y aura des descentes massives dans les usines et dans l'industrie agricole où, selon les données officielles, les immigrants sans papier sont les plus susceptibles de travailler.
Après son investiture le 20 janvier, Donald Trump a fortement suggéré qu'il pourrait déclarer une urgence nationale et utiliser le personnel militaire américain pour aider à mener des expulsions massives, une mesure que les défenseurs de l'immigration se sont engagés à combattre devant les tribunaux.
Le président élu Donald Trump a annoncé son intention de nommer Robert F. Kennedy Jr. à la tête du ministère américain de la Santé publique et de la Population. Monsieur Kennedy est en désaccord avec une grande partie de la communauté scientifique sur des sujets tels que les vaccins et le VIH-Sida. Un reportage d'Anita Powell de la VOA. Le récit est de Lionel Gaïma.
Le message du président élu Donald Trump à l'égard de la personne qu'il a choisie pour être son principal conseiller en matière de santé était ça.
Je vais le laisser faire des folies sur le plan de la santé. Je vais le laisser se déchaîner sur l'alimentation. Je vais le laisser se déchaîner sur les médicaments.
La marge de manœuvre de M. Kennedy au sein du ministère de la Santé comprend des agences nationales de santé publique et la recherche médicale ainsi que l'assurance maladie financée par le gouvernement pour plus de 140 millions de personnes.
Ne méritons-nous pas un président des États-Unis qui rendra l'Amérique à nouveau saine?
Kennedy était un avocat spécialisé dans l'environnement. Son oncle était l'ancien président John F. Kennedy et son père était l'ancien ministre de la Justice Robert F. Kennedy. Il s'est présenté à l'élection présidentielle de cette année en tant que candidat indépendant, quittant un parti démocrate que son père et son oncle ne reconnaîtront pas, en partie à cause de ce qu'il dit être le lien du parti avec les grandes entreprises pharmaceutiques.
C'est devenu le parti de la censure, le parti de Big Pharma.
Pendant la pandémie de coronavirus, Kennedy a soutenu des fausses affirmations, notamment des liens entre les vaccins et l'autisme et l'exercice d'une conspiration du gouvernement américain visant à utiliser les vaccins COVID pour faire des expériences sur les Noirs et les Hispano-Américains. Il affirme ne pas être opposé à tous les vaccins, mais qu'il ne veut pas qu'ils soient obligatoires.
Si quelqu'un veut se faire vacciner, je ne vais pas lui mettre des bâtons dans les roues. Si vous voulez un vaccin ou si vous voulez vacciner vos enfants, ces vaccins seront disponibles.
L'Organisation mondiale de la santé qualifie les vaccins des réussites mondiales qui a permis de sauver des millions de vies, une position que l'organe de l'ONU a réitérée peu après que M. Trump a annoncé son intention de nommer M. Kennedy au poste suprême de la santé.
Les vaccins sont la raison pour laquelle nous sommes beaucoup plus nombreux à avoir survécu jusqu'à l'âge adulte qu'auparavant. Ils sont si efficaces qu'ils sont presque victimes de leur succès.
Le scepticisme de M. Kennedy à l'égard des vaccins pourrait avoir une incidence sur le maintien de leur prise en charge par les compagnies d'assurance, explique Dr Ashish Jha, ancien coordinateur de la réponse au coronavirus au sein de l'administration Biden.
RFK Jr. a démontré, je pense, au fil des décennies, qu'il ne comprend pas les bases de la pensée scientifique et de l'analyse rigoureuse. Il dit des choses qui sont tout simplement fausses et il colporte des théories complots.
Si sa nomination est confirmée, M. Kennedy sera à la tête d'une agence qui compte 80 000 employés aux États-Unis et dans le monde entier, et dont le budget s'élève à 1 700 milliards de dollars.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde d'aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à la rédaction et à toute l'équipe de production. Au micro, vous étiez avec Rosine Munezero, à la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.